Dieu ne ferme la porte à personne. Donc ce matin, nous pouvons nous réjouir. Nous avons partagé déjà passablement sur la lumière. Et nous avons même chanté un chant « Lumière du monde ». Et ce sera le thème de ce matin. Le thème de ce partage de ce matin portera effectivement nos regards sur la lumière, au travers de l'Écriture, c'est-à-dire de la Bible. Et comme lumière principale pour éclairer notre partage, nous voulons placer Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Si nous regardons les différentes sources de lumière que nous côtoyons chaque jour, nous avons d'abord le soleil qui réchauffe notre corps, puis le candélabre ou le lampadaire qui éclaire notre marche. Et chacun a chez lui une lampe de bureau qui éclaire notre lecture. Et puis, lorsque nous sommes en voiture, nous avons les phares de notre véhicule qui éclaire notre route. Toutes ces sources de lumière ne sont utiles que dans une période et une situation bien précise, c'est-à-dire pendant la nuit. Le jour, elles ne servent pas à grand-chose. La nuit, c'est aussi similaire aux ténèbres. Et d'ailleurs, Jésus en parle, car il sait d'où il vient et où il est. Dans Jean 12, au verset 46, nous lisons « Je suis venu comme une lumière dans les ténèbres, et je suis venu comme une lumière dans ce monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Remontons un peu le temps. À la création du monde, dans le livre de la Genèse, tout au début, Dieu désire mettre les choses à leur place. Et il est écrit, « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le premier jour. » Depuis cette période ou cet épisode, nous assistons au lever du soleil chaque matin et nous profitons des diverses sources de lumière dès la tombée de la nuit, que ce soit les étoiles ou la lune. D'ailleurs, David, dans un des plus beaux psaumes, où il est vrai et sans compromis devant l'Éternel, sachant qu'il ne peut rien cacher devant lui, il déclare au chapitre 139 et au verset 12, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Plus loin, dans un autre livre de la Bible, celui de Néhémie. Le prophète rappelle ce que Dieu donne au peuple d'Israël dans le désert. Et il dit, « Tu les guideras le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairera dans le chemin qu'ils ont à suivre. » Si nous poursuivons notre marche dans les Écritures, nous voyons que Dieu n'a qu'une pensée depuis le début et qu'il poursuit son appel, celle de nous amener des ténèbres à la lumière. Je raccourcis volontairement un peu ici mon parcours et ce parcours dans l'Ancien Testament. Je pense que nous pourrons le reprendre dans les mois de l'année prochaine. Autour de ces deux entités que sont les ténèbres et la lumière se trouve une autre réalité, une autre perspective de Dieu. Et cette autre perspective n'est autre que de nous appeler à sortir des ténèbres de nos péchés et à entrer dans la lumière de son esprit. C'est un peu peut-être compliqué dit comme ça, mais la réalité, elle se trouve à nouveau dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui est loin de la venue de Jésus, puisqu'environ 1900 ans séparent leur vie. Mais déjà là, Dieu parle à Moïse et il lui fit proclamer certaines pensées. Rappelons ici que Dieu ne se trompe pas et comme il est à l'origine de tout, que sa mémoire ne faillit pas et que son amour de Père ne change pas à notre égard, Dieu nous prépare tout au long de sa parole, qui est la parole de Dieu, la Bible. Par des révélations, il nous parle. Et il parle à ceux qui non seulement lisent, mais qui écoutent et qui cherchent. C'est ce que nous désirons faire aujourd'hui. Et comme il l'a dit à Ésaïe, et comme Ésaïe nous le dit au travers de la Bible, dans Ésaïe 7, au verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » C'est au futur que Moïse parle, car comme nous l'avons vu, une longue période sépare cette prophétie de sa réalisation. Mais Dieu, qui connaît les conditions de vie de son peuple, et plus tard de nous-mêmes, signifie par ces mots la réalité de nos vies. Dans Ésaïe 9, au verset 2, il est dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. » Et un peu plus loin, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Comme je l'ai dit, une longue période s'ensuivit, pendant laquelle Dieu se manifeste de plusieurs manières. Il parle, il agit, et il s'adresse personnellement. Mais, malheureusement, la dureté du cœur des hommes, leur difficulté à écouter et à mettre en pratique, attriste de plus en plus le cœur de Dieu. Alors, poursuivons ensemble et remontons le temps. Et nous arrivons à cette période où, selon ce que nous rapporte la Bible, dans l'évangile de Luc, nous pouvons lire le récit suivant. Dans les ténèbres d'une nuit froide, des bergers se relayaient pour garder des moutons et des chèvres. Soudain, la gloire de Dieu resplendit comme une grande lumière et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit de ne pas s'effrayer, mais d'aller à Bethléem afin d'adorer le Messie, le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu. Et vous le trouverez, il sera dans une étable, couché dans une crèche. Ils y allèrent donc, se dépêchant, après avoir vu l'enfant et ses parents, ils partagèrent ce que Dieu avait mis dans leur cœur, ce qu'ils venaient de vivre, peu connaisseurs des choses de Dieu, mais tellement remplis de cet amour communicatif. Ils ont été touchés par l'enfant Dieu et ils ont entendu la bonne nouvelle des anges. Leur vie, dès maintenant, sera louange à Dieu. Ils sont transformés, puisqu'ils se mirent à louer Dieu d'avoir vu ce qu'ils avaient entendu. Je répète, d'avoir vu ce qu'ils avaient entendu. Dans un autre évangile, celui de Matthieu, nous pouvons lire. Le roi Hérode est parti cela et tout Jérusalem avec lui.
et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'acceptes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui mettra Israël son peuple. Alors Hérode, il appelait en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps le roi vivait. Puis il les envoya avec bien en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même avec eux. Puis divinement, averti en songe de ne pas remonter vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Nous venons de lire que des mages, des étrangers, qui vivaient très loin du pays de Jésus, qui étaient des savants, qui observaient le ciel et les étoiles, et qui ont vu apparaître une étoile nouvelle. Pour mémoire, souvenons-nous qu'à cette époque, on croyait qu'une nouvelle étoile était un signe du ciel pour dire que quelqu'un de très important venait de naître. Matthieu raconte que les mages sont partis de chez eux. Ils ont suivi l'étoile et elle les a guidés jusqu'à Jésus. Autour de ces deux récits, venant de deux auteurs différents, un message pour nous est transmis. J'ai essayé de sortir quelques points importants. Premièrement, Dieu se dévoile de deux manières. Dieu parle au travers de sa créature. Il dit aux bergers d'aller dans la ville de David, qui est Bethléem. Et il leur dit, aujourd'hui, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. À qui s'adresse-t-il? À des gens simples, qui ne se posent pas de questions inutiles. Mais de l'autre côté, Dieu parle au travers de la création, de sa création. Il utilise les étoiles dont il a rempli la voûte céleste. Nous l'avons lu dans la Genèse, au quatrième jour de la création. Et il donne de l'intelligence et du discernement à des personnes de la haute société. Deuxièmement, Dieu désire nous montrer l'étendue de son amour. Il parle autant à ceux qui sont au loin comme à ceux qui sont tout près, nous. Troisièmement, les deux chemins convergent vers un seul et même lieu au pied de l'enfant Jésus. Quatrièmement, c'est la lumière de l'étoile et celle de la gloire de Dieu qui guident leurs pas. Et cinquièmement, ce qu'ils ont vu, que ce soit les bergers ou les mages, a transformé leur vie. Il est dit que les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les mages, eux, se prosternèrent et adorèrent l'enfant. Puis ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, avertis en songe de ne pas aller vers Hérode. Et nous, aujourd'hui, ce matin, comment pouvons-nous vivre ce que nous venons de partager, de concrétiser et d'actualiser ce changement radical vécu par les bergers et par les mages, engendré par la rencontre de Dieu fait homme. La parole de Dieu nous dit que dans leur simplicité, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu. Pour les mages, riches de connaissances, tentés de poursuivre la proposition d'Hérode, c'est par un songe qu'ils furent avertis de ne pas retourner vers Hérode. Ce matin, une proposition que la parole de Dieu nous donne nous est faite. Nous la trouvons dans 1 Pierre 2, au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et dans un psaume, nous pouvons lire « L'Éternel est tout près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Comme nous l'avons lu dans ces deux passages, les bergers ont laissé pour un temps leur travail, leur quotidien pour s'approcher de la lumière. Les mages, eux, ont quitté leur richesse, leur noblesse, pour s'approcher également de la lumière du monde. Jean, l'un des disciples qui a vécu aux côtés de Jésus, a été transformé dans son être tout entier par l'amour de Dieu. Et il a pu écrire « Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ne regardons pas aux circonstances, à ce que nous sommes en train de vivre, ce qui occupe notre quotidien, embarrasse nos vies, et venons avec humilité aux pieds de notre Dieu en Jésus-Christ. Quittons ce qui nous retient et laissons Dieu nous inonder de sa lumière salvatrice. Dans son livre, son épître au chapitre 12, au verset 35 et suivant, Jean à nouveau écrit « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Une bougie va vous être distribuée, et je vous inviterai à la fin du culte à venir l'allumer auprès de celle qui ne s'éteint jamais, la lumière de Christ, cette lumière qui éclaire notre chemin. C'est un symbole, rien de plus. Mais c'est en même temps pour chacun de nous la possibilité de dire Oui, Seigneur, je sais que tu m'as transformé. Je sais que tu m'as sauvé. Et je désire simplement ici l'attester et le confesser. Dans Jean 17, au verset 24, il est dit, c'est Jésus qui parle. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est avec des faibles mots que nous essayons de pouvoir te glorifier au travers de ce que tu as fait en acceptant de donner ton Fils à Noël, de lui permettre de grandir au milieu de nous et de nous annoncer ce message extraordinaire de la rédemption, c'est-à-dire de retrouver cette filiation avec le Père, de retrouver cette intimité d'amour qui était au début. Seigneur, nous voulons t'accepter dans nos vies ce matin encore. Nous voulons te laisser toute la place. Nous désirons que tu continues, Seigneur, de transformer nos vies afin qu'elles te ressemblent, toi qui n'as pas péché. Merci de nous accepter tels que nous sommes. Merci, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir le cœur, afin que ta lumière vienne en nous. Que un flot nouveau, un chant nouveau, une immersion totale en toi nous inonde, car tu es le Dieu de la vérité. Tu es le Dieu d'amour éternel. Amen.